Mélissa Généreux est avec nous ce matin. Bonjour, Mélissa.
Bon matin, Steve.
La grande question que les gens se posent en cette semaine de rentrée, aujourd'hui, on est à la rentrée des jeunes du cégep. On leur en souhaite une bonne d'ailleurs. Jeudi, ce sera celle du primaire et du secondaire. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que nos enfants demeurent souvent à la maison en raison de symptômes COVID?
Bien, écoute, c'est vraiment le but de la chronique aujourd'hui parce que moi, je l'ai entendu beaucoup dans mon entourage.
Ah,
j'imagine
oui.
que dans le tien aussi, hein, parce qu'on se réjouit tous comme parents que nos enfants aient enfin la chance de vivre une rentrée,
oui.
bon, un peu différente, mais quand même de retrouver les personnes qui sont importantes pour eux. Mais d'un autre côté, on se demande si on ne va pas être pris une semaine sur deux à rester à la maison et à encore faire du télétravail. Donc, avant de répondre à ça, je pense que c'est important de comprendre, d'un point de vue de santé publique, les différents éléments qu'on prend en considération. Je pense qu'après ça, c'est plus facile d'adhérer aux recommandations.
Okay.
Et d'un côté, c'est sûr qu'on veut protéger là, les enfants et le personnel à l'école contre le virus, c'est bien évident, mais on cherche vraiment à trouver un juste équilibre parce que d'un autre côté, l'accès à une éducation de qualité, à une éducation qui est aussi équitable pour tout le monde, qui ne va pas faire en sorte que certains enfants sont vraiment désavantagés parce qu'ils sont plus souvent malades, ça c'est aussi une valeur, bon pas juste de santé publique, mais je pense une valeur de la société québécoise. Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'un retour au confinement pour les enfants, c'est vraiment pas souhaitable parce que l'éducation, bien, c'est bon pour le développement global de l'enfant. Donc, il y a vraiment un peu cette dualité-là là, entre un côté le coronavirus et l'autre côté le développement optimal de l'enfant. Puis l'autre chose qu'on a pris en considération, c'est que, veux pas, l'automne arrive et il va en avoir des virus respiratoires autres que le coronavirus.
Des petits
normal et attends.
Donc
ben
des petits rhumes,
oui,
hein? Ben oui.
Ben on en a même vu cet été. Donc,
ah oui.
Imagine, tu sais, force est d'admettre qu'avec l'automne, la saison froide qui s'en vient, on va en avoir de plus en plus. Et autre chose qu'on voit de plus en plus, là, la science se peaufine au sujet du coronavirus chez les enfants, c'est que chez les enfants, c'est très difficile de prédire quel enfant va avoir le coronavirus sur la base de ses symptômes. On sait que l'enfant va souvent avoir une manifestation moins grave de la maladie. Il n'y a pas de symptômes vraiment prédictifs à part là, la perte d'odorat subite. Sinon, c'est très difficile à distinguer. Donc, une fois qu'on dit tout ça, dans le fond, ce qu'on réalistement la santé publique se dit, c'est qu'on ne pourra probablement pas empêcher l'introduction de tout cas de coronavirus dans une école. Ce n'est pas réaliste de penser ça. Donc, l'énergie, où est-ce qu'elle est vraiment mise, c'est dire dès qu'il y a un cas qui rentre à l'école, on veut rapidement le repérer et rapidement agir pour limiter la propagation au sein de l'école, éviter là, qu'on fasse face à une éclosion, par exemple. Donc, une des stratégies, c'est dès qu'on a un cas, là, de faire une enquête solide pour identifier tous les contacts et s'assurer qu'il y a mesures de santé publique pour ces contacts-là s'imposent. Donc ça, c'est la philosophie derrière un peu les conseils que je vais vous donner aujourd'hui.
En même temps, ça va être assez complexe parce que supposons qu'on trouve un cas, qui doit s'isoler? Est-ce qu'on isole le jeune? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on isole sa classe au complet du coup?
Mais en fait, ça, je te dirais que c'est une science un peu qui évolue, mais en ce moment, on a vraiment des guides très, très, très clairs.
Okay.
Et le mot d'ordre, c'est qu'à partir du moment qu'on a un cas, il y a vraiment tout un algorithme pour voir est-ce que c'est la classe, quel type de contact va justifier, par exemple, un isolement à la maison versus plus surveiller les symptômes de façon plus intense. Donc, on est vraiment dans une logique où la santé publique va être très présente pour s'assurer que chaque personne, ça soit clair qu'est-ce qu'elle a à faire. S'il y a eu un cas dans l'école, ça, soyez assurés. Là, c'est justement là-dessus qu'on va mettre l'énergie pour que ça soit clair et limpide pour tout le monde.
OK. Quels symptômes on devrait surveiller?
Mais avant d'aller aux symptômes, juste dire, il y a comme pour moi là, 4 grandes catégories de gens qui devraient d'emblée s'isoler à la maison. Bien là, un, c'est assez évident, mais ceux qui ont su une directive justement de la santé publique, comme quoi ils doivent s'isoler. Ça, c'est super important de respecter. Je le dis parce que honnêtement, on a vu plusieurs cas de gens qui ne respectent pas nécessairement la consigne.
Oui.
Oui. Donc, si vous avez été en contact avec un cas de COVID et on vous dit de vous isoler 14 jours, il faut absolument le faire. Bien, ça va de soi, mais je prends quand même de le répéter.
Non,
la peine de le répéter parce que c'est pas si évident de l'appliquer pour certaines personnes, on dirait. Sinon, les gens qui sont sous investigation, donc qui sont en attente là, d'avoir leur résultat de dépistage, ou évidemment, ceux qui ont reçu un diagnostic de COVID, ça va de soi. La deuxième catégorie, c'est ceux qui reviennent de voyage hors Canada. Donc, encore une fois, ça va de soi, mais c'est super important de conserver le 14 jours de quarantaine qui est imposé en retour de voyage. Troisième catégorie, ça c'est intéressant, c'est ceux qui ont un doute d'avoir contracté la COVID. Donc, des fois, votre nom ne va peut-être pas sortir dans une enquête d'un cas confirmé, mais vous savez que vous avez été en contact avec un cas confirmé, puis vous êtes inquiet d'avoir le coronavirus. Bien, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est appeler au 1-877 6-4-4-4-5-4-5 et on va pouvoir évaluer votre situation. Mais à ce moment-là, c'est peut-être mieux de rester à la maison le temps qu'on clarifie votre situation. Mm-hmm. Puis finalement, ben là, il y a les jeunes ou le personnel qui présenterait une liste de symptômes quand même bien définie que je vais vous présenter à l'instant. Mais c'est pas n'importe quel symptôme, c'est vraiment des symptômes assez précis.
Donc, allons-y pour les symptômes.
Oui. Encore une fois, je l'ai dit, c'est en quatre catégories. La fièvre. Ça, c'est sûr que la fièvre, puis encore une fois, on connaît que certaines personnes jeunes, surtout, peuvent faire un rhume avec la fièvre. Ça, c'est dommage parce que le symptôme de fièvre, c'est peut-être celui le plus fatigant. Donc, à partir de 38 mm-hmm. degrés ou 100.4 le Fahrenheit, on va le prendre rectal en bas de l'âge de 5 ans, puis à partir de 5 ans au niveau buccal. Donc, ça, on s'isole à la maison. Symptômes généraux, je dirais la perte d'appétit subite, très grande fatigue, douleurs musculaires partout chez notre enfant, on reste à la maison. Les symptômes de gastro, vomissements, diarrhée, on reste à la maison. Vous savez pourquoi? Même si ce n'est pas le coronavirus, on
c'est
reste à la maison.
Idée, parce
qu'on veut... c'est pas une mauvaise idée, comme tu dis. Puis le dernier groupe là, de symptômes, c'est les symptômes respiratoires. Je pense que c'est là que ça va accrocher un peu à cet automne parce que c'est pas n'importe quel symptôme. C'est vraiment mal de gorge, essoufflement, et la toux, mais pas n'importe quel toux. Donc, un enfant, par exemple, asthmatique, là, qui a l'habitude, si on veut, de tousser un peu plus souvent parce que son asthme est moins bien contrôlé, ça va. C'est vraiment une nouvelle toux ou une toux qui est aggravée par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Donc, toux, essoufflement et mal de gorge. Et vous avez vu que je n'ai pas nommé le nez qui coule ou la congestion. Donc, un enfant qui coule du nez, qui va bien et qui ne fait pas vraiment de fièvre, n'a pas à s'isoler à la maison.
OK.
Oui, bien ça, c'est intéressant parce que ce que je veux dire, c'est que c'est autant au niveau de l'école, on ne doit pas appliquer des critères d'exclusion trop sévères.
Mm-hmm.
Et au niveau des parents, peut-être pas juger les autres parents qui laissent leur enfant y aller. Parce que sinon, on fait une pression. On se dit, bien là, mon jeune tousse un peu, coule du nez. Mais c'est correct. Il n'a pas à s'isoler. Vous n'avez pas appelé au 1-877-644-4545 si votre enfant ne présente pas les quatre groupes de symptômes que je viens de mentionner.
Merci beaucoup, Mélissa. Généreux d'avoir clarifié tout ça, puis on a bien hâte de voir comment cette rentrée-là va se passer. Il y aura probablement des cas, oui, je pense que c'est inévitable, mais comme tu l'as mentionné, ben il faut quand même y aller de façon compréhensible. Hein, il y aura toutes sortes de choses qui vont se passer. Là.
Et se rappeler que le développement de l'enfant, ça demeure tout aussi important que la santé physique.
Merci beaucoup, Mélissa. Merci.
Ça
résume très bien la chronique de ce matin. Des petits nez qui coulent, il va y en avoir. Faut pas retourner tout le monde à la maison pour ça puis les isoler pendant 14 jours pour autant.